Vous écoutez RTL.
Il est 14h03 sur RTL, on retrouve Sidonie Bonnec et Thomas Hugues. Bonjour.
Bonjour. Salut Christelle. Êtes-vous fan de Tintin comme tous les auditeurs
J'adore,
qu'on a entendu.
J'ai grandi avec,
Pascal,
avec Tintin et Astérix.
C'est quoi votre album préféré?
Je crois que c'est Objectif Lune, parce que ça fait tellement rêver.
Une tendresse particulière pour ces deux albums. Merci Christelle, à très vite, on vous retrouve demain. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Si vous nous rejoignez à l'instant, bienvenue sur la première radio de France, bienvenue dans la curiosité avec Sidonie. Salut Sidonie.
Salut Thomas, salut les curieux. Apprendre en s'amusant, vous le savez, c'est notre credo. Histoire, grand destin, saga musicale, nature, science nous passionnent. Et tout à l'heure, vers 14h30, vous allez découvrir la folie, les secrets des tests ADN. Comment, avec juste un tout petit peu de salive ou un cheveu, vous pouvez découvrir vos origines et même vos prédispositions à développer certaines maladies. C'est passionnant et effrayant, vous l'imaginez bien.
Et si je demandais à Christelle Robière si elle est fan de Tintin, c'est parce qu'on lui souhaite un bon anniversaire. 90 ans.
X3 AQG.
RTL.
Nous sommes au château de Moulinsart. Les rapports sont exacts.
La curiosité est un vilain défaut.
Allons avoir la fameuse orange, hein, Milou.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Fermez toutes les fenêtres, Tintin. Ça va barder.
Entendu, capitaine. Je ferme les écoutilles.
Tintin fête ses 90 ans. À cette occasion, RTL et La Curiosité vous font un cadeau. 4 séries, écoutez bien, 4 séries de voitures, des miniatures d'une valeur de 1 900 €, éditées par Hachette Collection, sont à gagner tout à l'heure. Écoutez bien notre émission, on vous posera la question dans une demi-heure. Et il faut bien écouter notre invité qui a énormément de choses à nous révéler. C'est Benoît Peters, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue chez nous.
Vous êtes écrivain, auteur de bande dessinée, spécialiste du monde de RG. Que se passe-t-il le 10 janvier 1929, il y a 90 ans tout juste?
Il se passe un événement qui n'en est pas vraiment un. C'est les deux premières pages de Tintin au pays des soviets dans un petit hebdomadaire pour la jeunesse qui s'appelle Le Petit Vingtième, qui est le supplément d'un journal très catholique, très conservateur, qui s'appelle Le Vingtième Siècle. Le Vingtième Siècle, c'est un beau titre parce que ça couvre bien ce que Tintin deviendra. Mais en fait, ce jour-là, Hergé a improvisé, il a créé à toute vitesse un petit bonhomme, un petit personnage flanqué d'un petit chien doté de paroles. Et les voilà à la gare du Nord embarquant dans un train pour partir en Russie.
Est-ce que c'est la toute première apparition de Tintin dans le Petit Vingtième, ce 10 janvier?
Alors, je sens en vous l'érudit, car quelques jours
en tout cas, celui qui a préparé
avant,
l'édition.
Dans le journal Le XXe siècle, il y avait eu une image annonce le 5 janvier, c'était le samedi, qui disait « Bientôt, les aventures extraordinaires de Tintin ». Et alors, on disait une chose encore plus incroyable, c'est que le XXe siècle, le Petit Vingtième, allait publier les dernières photos envoyé par Tintin. Or, quand on voit les dessins d'Hergé, ils ressemblent à tout, sauf à des photos. C'est des dessins assez simples, assez rudimentaires, très vite faits. Mais ça nous dit quelque chose d'essentiel, c'est l'authenticité. C'est-à-dire que ce Tintin qui vient de naître, on le présente aux jeunes lecteurs et lectrices, mais je crois qu'il y avait plus de garçons, du Petit Vingtième, comme un personnage authentique.
Donc
comme un
dire...
personnage qui existe, un reporter au fond, comme on a aujourd'hui des reporters qui se photographient, se filment partout à travers le monde.
Mais ça ne sera pas démenti, Benoît Peters, on va croire longtemps que Tintin est un vrai reporter?
Alors, fallait-il abuser de la crédulité des enfants? Je ne sais pas. Ils ne connaissaient pas les fake news ou les infox, comme on les appelle maintenant, mais ils avaient peut-être une certaine crédulité. Donc, on raconte que le journal Le XXe siècle a envoyé son meilleur reporter en URSS au pays des soviets pour dénoncer toutes les horreurs de ce pays.
Parce que l'abbé Valèze n'était pas franchement...
De gauche.
On peut dire ça comme ça. Anticommuniste.
Alors, communiste forcené, admirateur de Mussolini, tout ce qu'on veut. Tintin naît dans un bain idéologique très très marqué. La seule chose, c'est que l'histoire, avec un grand H, elle a beaucoup évolué. Et que dans ma jeunesse, la première fois que j'ai rentré à Hergé, Tintin au pays des soviets, c'était très mal vu. On avait l'impression que c'était un album scandaleux, épouvantable, qu'Hergé ne voulait pas qu'on réimprime. Et aujourd'hui, finalement, c'est un album très consensuel. Je pense que même l'humanité peut faire l'éloge de Tintin au pays des soviets, parce que ce qu'il dénonce, c'est un totalitarisme. Alors peut-être que dans le chef de la BOLE, c'était de la propagande, mais dans ce que montre Hergé, par exemple dans une scène très fameuse de Tintin au pays des soviets, qui est la scène des élections truquées, cette scène des élections truquées, non seulement elle est vraie pour l'URSS de l'époque, mais elle est tristement vraie pour beaucoup de pays de par le monde.
Bien
Donc, on ne doit pas avoir honte de ce premier album.
Benoît Peters, vous participez à une série d'ouvrages magnifiques, Hergé, le feuilleton intégral, dont le tome 8 vient de paraître, publié chez Casterman et Moulinsart Éditions. On y découvre tous les secrets de fabrication du créateur de Tintin. Est-ce qu'il était confiant dans ses dessins, dans ses talents de dessinateur et dans ses dessins, bien sûr?
Alors, Hergé, à ses débuts, c'est vraiment un homme de presse. Et c'est ça que nous montrons dans cette série. C'est les versions originales parues dans Le Petit 20e, en France, dans Cœur Vaillant, plus tard dans l'hebdomadaire Tintin. Hergé travaillait à la petite semaine. Il travaillait au dernier moment.
Donc, il faisait des petits croquis, vous voulez dire? Pas
oui,
de grandes planches?
Il faisait ses planches très vite sans imaginer qu'on fêterait les 90 ans de Tintin. Il ne pensait même pas qu'on fêterait son 10e anniversaire. Ce qu'il a décidé à aller plus loin, c'est la grande fête organisée à la fin de Tintin au pays des Soviets. Donc, après un an de parution dans le journal, l'Abbé Wallet et Hergé concoctent un retour de Tintin, Gare du Nord à Bruxelles. Hergé était un peu effrayé, il dit, on va peut-être se retrouver avec 30 gosses, ça va être... Bon. Alors, on prend un jeune scout, on l'habille à la Tintin, on met des cachets en pseudo-cyrillique, des visas sur sa valise, il sort Gare du Nord, et il y a des milliers d'enfants. Le seul détail qui choque, parce que tout le monde accepte très bien ce retour de Tintin, bah oui, Tintin est revenu, affronter des dangers. La seule chose qui choque, c'est que Tintin tient Milou en laisse. Et ça, dans les albums, dans les histoires de Tintin, ça n'arrive jamais, évidemment.
Mais Benoît Peters, sur les talents de dessinateur d'Hergé, il faut raconter l'histoire de l'apparition de la fameuse houppette de Tintin. Elle apparaît quand et pourquoi?
Alors, elle apparaît à la page 8, pour être précis, de Tintin au pays des Soviets. Tintin est dans un coupé Mercedes. Il roule rapidement sur une route. Milou lui dit « Accélère, Tintin !» Et un coup de vent lui forge cette mèche. C'était une sorte de mèche qui était vers l'avant, et là, elle devient
verticale.
Mais il
n'a jamais eu le temps de se recoiffer, Tintin ?
Pardon ?
Il n'a jamais eu le temps de se recoiffer, après ?
Je crois qu'il a gardé son look formidable. Hergé racontait que, comme il n'était pas sûr de bien dessiner son personnage de manière reconnaissable, quand il était petit dans une image, quand il était de profil, de dos, en simple silhouette, la houppe était un signe qui le rendait immédiatement identifiable.
Vous pouvez regarder sur nos réseaux sociaux, Twitter, Facebook, la houppe de Thomas Hugues à base d'une banane. Vous allez voir, c'est très reconnaissable.
Oui, dans la vidéo qu'on publie sur nos réseaux sociaux pour annoncer le sommaire de l'émission. Tintin, c'est aussi, c'est vrai, c'est pas mal. Tintin, c'est aussi une cohorte de personnages devenus légendaires, de Milou au Capitaine Haddock.
Les milliards de mille sabords. Nul tonnerre de Brest, vous n'avez pas le droit, c'est de l'assassinat pur et simple. Espèce de cannibale emplumé, bande de zapothèques, moule à gaufres sauvages.
Tout ce que j'ai envie de vous dire, Thomas.
Oui, voilà, je savais bien, on vous révèle les secrets de création d'Hergé, et notamment lui-même qui raconte pourquoi il met tant de jurons improbables dans la bouche du capitaine Haddock. A tout de suite sur RTL.
Oh, moule à gaufres, j'adore.
Jean-Pierre Talbot est le seul à s'être glissé dans la peau du jeune reporter devant une caméra.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Hergé rentre dans le bureau avec le producteur Jean-Pierre Hergé. Hergé, Jean-Pierre, un petit sourire se dessine sur son visage. Il pose amicalement la main sur mon épaule et il déclare « Oui, c'est bien lui ».
Sur RTL.
Et oui, c'est bien lui sur RTL. Tintin, plus de 250 millions d'albums vendus dans le monde, une œuvre traduite dans plus de 90 langues. Tintin qui fête ses 90 ans puisque le tout premier dessin est paru dans Le Petit 20e, le 5 janvier 1929. C'est ce que nous raconte notre invité, l'écrivain et auteur de BD, Benoît Peters. On continue avec vous d'ailleurs de révéler ces secrets de fabrication d'Hergé. D'ailleurs, d'où vient le nom de l'auteur Hergé ?
Bon, Hergé, c'est un pseudonyme d'artiste que se forge Georges Remy. Il trouve que Georges Remy, c'est un peu banal, alors il permute ses initiales, donc GR, deviennent Hergé, qu'il écrit sous une forme graphique pour réserver son vrai nom à une œuvre tardive, quand il serait devenu un très bon dessinateur, un grand artiste. Simplement, finalement, Hergé est devenu si connu qu'il l'a gardé jusqu'à la fin de sa vie, même pour quelques tableaux qu'il a faits, il les a signés Hergé.
Hergé qui crée Tintin et qui était très vite, vous le disiez, lui offre un petit chien. Pourquoi il offre un chien à Tintin? Il s'ennuyait un peu, son héros à la houppette?
Bon, il lui offre tout de suite, puisque les deux embarquent dans le train et commencent leur aventure tout à fait fantaisiste et farcesque dans Tintin au pays des Soviets. Oui, c'est un chien qui parle et c'est un chien que Tintin comprend. C'est-à-dire que ce n'est pas un simple chien, manifestement, ce sont vraiment deux personnages qui dialoguent. Qui dialogue beaucoup. Milou fait des mots d'esprit, Milou parfois rabroue Tintin, souvent Milou le sauve. Mais quand apparaît 10 ans plus tard, le capitaine Haddock, dans le crabe aux pinces d'or, Milou perd la parole. C'est-à-dire qu'il ne la perd peut-être pas tout à fait, mais en tout cas, il perd la capacité à dialoguer avec Tintin. Il est vrai que qui pourrait tenir tête au capitaine Haddock avec les insultes, on a entendu quelques-unes, mais sa puissance vocale, c'est vraiment un homme de la vocifération, ouais. Un homme du verbe. Hergé est aussi un très bon écrivain.
Oui, Hergé qui racontait sur RTL pour un anniversaire, c'était déjà un anniversaire, les 40 ans, on était en 69, il racontait d'où lui était venue l'idée de ces jurons dans la bouche d'Haddock.
Pour une question de sonorité, simplement. Il y a très longtemps, me promenant un jour en ville, à Bruxelles, ici, j'ai entendu une marchande des quatre saisons invectiver quelqu'un qui, je ne sais pas pourquoi, lui avait déplu. Espèce de pacte à quatre. C'était à l'époque où il y avait ce fameux pacte à quatre entre l'Italie, l'Angleterre. Je ne me souviens plus d'ailleurs la politique et moi, même internationale, ça fait beaucoup. Je me souviens fort bien que pacte à quatre, ça avait une sonorité, une véhémence qui ne correspondait à rien, quoi. Bachibouzouk, bien sûr, ça existe. Mais il y en a d'autres qui n'existent pas. Enfin, Scolopendre, par exemple, n'existe pas comme injure, en tout cas pas typiquement.
Et merci à Laurent Marsic d'avoir dégoté pour nous cette première archive d'Hergé. Benoît Peters, on va parler de ces personnages créés par l'auteur de Tintin. Est-ce qu'il s'inspirait de son environnement, de ses proches? Tiens, par exemple, le professeur Tournesol.
Oui, le professeur Tournesol, on a un modèle très très clair. C'est un savant qu'Hergé côtoyait parfois dans les rues de Bruxelles. Il était parfois aussi en Suisse. C'est le professeur Auguste Piccard. Alors, Auguste Piccard était explorateur de la stratosphère, mais aussi avait son bathyscaphe. Donc, deux types d'inventions dans l'air et dans les fonds marins que Tournesol reprendra. Tournesol est un savant encore plus éclectique. Mmh. Mais alors, il y a un détail qu'il a fallu changer tout de suite, c'est la taille. Parce que Piccard était extrêmement grand. Il approchait les 2 mètres.
C'est gênant,
et Hergé disait, j'aurais dû agrandir mes cases pour y faire entrer Tournesol. Donc on a un Tournesol de proportion plus raisonnable.
Benoît Peters, et les frères diaboliques, là, les Dupont D et Duponté, ça c'est vraiment...
Qui ne sont
dans
pas frères, hein. Vous avez déjà vu des frères qui portent un nom avec une lettre de différence.
Ça, c'est une invention, forcément, d'Hergé.
Oui, une invention, mais une invention alors très très proche du réel, mais probablement inconsciemment. Parce qu'il se trouve que le père d'Hergé, Alexis Remy, avait un frère jumeau. Et ces deux hommes se sont, toute leur vie, habillés de la même façon, fréquentaient les mêmes endroits, portaient les mêmes chapeaux, ont eu la moustache au même moment, pas toute leur vie. Les Dupont nous disent dans une aventure qu'ils portent la moustache depuis leur plus tendre enfance, ce qui est une autre énigme pour la science, quand même un bel objet. Et alors, ce qui est très drôle, c'est que Alexis et Léon Remy, à la fin de leur vie, retraités, allant boire leur petite bière dans un café de Bruxelles, étaient désignés par les gens du quartier comme ceux qui font les Dupont, sans établir le moindre lien avec l'œuvre d'Hergé. Ils ne savaient pas du tout qu'il y avait ce lien direct.
Dans un instant, la question qui fâche Hergé, était-il raciste? On peut le penser en lisant Tintin au Congo. On en parle avec notre invité juste après ça sur RTL.
Entrez. Bonjour. Ah, bonjour, Madame Pirotte.
Pardon?
RTL.
Déposez tout cela sur la petite table, voulez-vous?
Je ne suis pas Madame Pirotte, professeur. Je m'appelle Tintin.
La curiosité est un vilain défaut.
Vite, on retourne au bateau. Tintin, où allez-vous?
Je vais rattraper Sakar.
Vous allez tout seul?
Oui.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Tintin fête ses 90 ans et la curiosité vous fait des cadeaux. On vous fait gagner 4 séries de voitures, des miniatures d'une valeur de 1 900 €, éditées par Hachette Collection. Écoutez bien, on vous pose la question dans quelques minutes, dans moins de 10 minutes. Grâce à notre invité Benoît Peters, on a appris comment Hergé avait créé ses personnages. Par exemple, le professeur Tournesol, inspiré d'un grand savant des années 30, Auguste Piccard, ou alors que les Duponté et Dupont D.
Eh bien, c'est nous.
Voilà, c'est nous. C'est Sidonie avec la moustache.
Je dirais
et moi
même
avec
plus.
La houppette. C'est surtout le père et le frère. Jumeau d'Hergé. Alors, on va parler de cet album qui suscite assez régulièrement la polémique encore aujourd'hui, Tintin au Congo. Hergé était-il raciste, Benoît Peters?
Je ne crois pas du tout qu'Hergé était raciste. Je pense qu'il était imprégné des idées de son temps, de son milieu, de son patron, l'abbé Wallet, dans ce journal très catholique et très à droite.
Paraît en quelle époque, pardon, Tintin au Congo?
Tintin au Congo, qui est le deuxième Tintin, il est commencé en 1930. Il paraît en album en 1931. C'est en noir et blanc, hein, comme tous les premiers Tintins sont en noir et blanc. On peut les redécouvrir dans leur fraîcheur, leur naïveté et parfois leurs énormités. Par exemple, dans la version noir et blanc de Tintin au Congo, Tintin, qui avec les missionnaires, va donner un cours à des petits élèves. Et c'est un cours sur votre patrie, la Belgique. C'est pas vos ancêtres les Gaulois, mais bon. Alors, dans la version couleur qu'Hergé transforme et réalise juste après la guerre, Hergé sent déjà qu'il y a des choses qui passent un peu moins bien, et la leçon devient une leçon de calcul. 2 plus 2 égale... Mais un léopard entre à ce moment-là dans la classe, vrai, Tintin doit sauver ses élèves, et donc nous ne connaîtrons jamais la réponse à la difficile question 2 plus 2 égale, pas plus que nous ne connaîtrons la vérité sur votre patrie, la Belgique. Tout ça, c'est le bain idéologique du temps. Hergé ne fait pas mieux que les autres, il n'est pas progressiste, il n'est pas anticolonialiste, mais on ne peut pas vraiment dire qu'il soit raciste, juste qu'il manque un peu de distance. Il n'a pas voyagé au Congo, bien sûr, pas plus qu'il n'a voyagé en Russie ou en Amérique. Il n'a pas rencontré de Congolais, il s'est très peu documenté. Il n'a jamais imaginé une seconde, une demi-seconde, que cette histoire serait encore lisible aujourd'hui, dans un monde qui a changé. Et déjà, dans les années 1960, au moment de la décolonisation, au moment où le Congo belge prend son indépendance, Hergé parlait de manière un peu embarrassée de cet album en disant « c'est un péché de jeunesse ». Alors moi, ce qui m'intéresse, moi, ce qui me frappe, c'est la capacité d'évolution d'Hergé. Bien sûr, il part là d'un bain idéologique médiocre et aujourd'hui heurtant. Et je comprends très bien que pour des enfants d'aujourd'hui,
bien sûr, on lit ça aujourd'hui,
qui vivent dans une société multiculturelle et heureusement qui vivent dans la mixité, qui ont une autre idée des enfants venus d'ailleurs, que ce soit choquant, je le comprends parfaitement. Mais il faut se souvenir que 3 ans après, Hergé va rencontrer un jeune étudiant chinois, Chang Chongzhen, qui va lui permettre de s'initier à une autre civilisation, en l'occurrence la Chine, et de se libérer des préjugés.
Et ça va devenir un de ses personnages, d'ailleurs.
Et ça va devenir un de ses personnages, et ça va créer d'ailleurs une amitié entre les peuples, une amitié entre deux individus qui se comprennent, parce que miraculeusement, ils arrivent à parler tous les deux le français, le petit Chang et le petit Tintin. Là, Tintin a sauvé Chang qui était sur le point de se noyer. Et il y a là, dans cet album, une vraie leçon de compréhension, une vraie leçon d'antiracisme. Et ce qui me frappe toujours, c'est que oui, Hergé est parti d'un monde qui était un monde très à droite, on peut même dire très lié à l'extrême droite, mais il a su s'en arracher. Et si nous pouvons lire Hergé aujourd'hui, si nous pouvons lire Tintin aujourd'hui, si les Chinois l'aiment tellement, si même les Congolais du Congo peuvent le lire en riant, c'est parce qu'il y a dans l'œuvre quelque chose qui dépasse complètement le contexte dans lequel Hergé a grandi. Ce milieu petit belge, il appelait ça parfois belgicain, c'est-à-dire étroit d'idées. Et qu'est-ce que c'est Tintin ? C'est le voyage incessant. Qu'est-ce que c'est la définition
c'est
de Tintin ?
C'est
la curiosité, c'est la curiosité qui anime Tintin.
D'ailleurs, sur RTL, on avait eu la chance d'avoir Hergé. Il raconte comment il a eu l'idée des albums Lune.
À Paris, au restaurant, à côté de moi, se trouvaient un papa, une maman et un jeune garçon. Et le papa dit, Dieu sait, peut-être plus tard, tu iras sur la Lune. Et tu verras, là, il y a des tas d'êtres extraordinaires. Et il y a des gens... Et le petit garçon l'a interrompu tout de suite. Il devait avoir une dizaine d'années. Et ça se passait donc il y a 15 ans, peut-être. Mais papa, tu sais comme moi qu'il n'y a personne sur la Lune, voyons. Et j'ai pensé à ça, je me suis dit que pour faire en sorte qu'on croie à l'histoire de Tintin sur la Lune, il fallait m'entourer de garanties scientifiques. Et c'est tout le mérite que j'ai, je suis loin d'être un auteur de science-fiction.
Quelle belle archive, Hergé, qui raconte comment il a eu l'idée de ses albums Lune sur RTL en 79 au micro de Jacques Chaput. La conquête spatiale, c'est le sujet qu'il aborde. Est-ce qu'il était en avant sur son temps, Hergé ?
Oui, je crois qu'il est visionnaire. C'est aussi un moment où Hergé a traversé des choses difficiles. Son comportement pendant la Deuxième Guerre mondiale n'a pas été héroïque. Il a été très critiqué. Il a envie un peu de se changer les idées, de sortir de la petite politique, de sortir même de ce monde dont Tintin a fait le tour, et donc se lancer lui-même un défi. Un défi technique impressionnant, parce qu'il va s'entourer d'une documentation folle, il va consulter d'excellents savants de l'époque, et ce qui est amusant, et moi ce qui me ravit dans cette aventure qui porte ce titre magnifique, « On a marché sur la Lune », c'est-à-dire c'est pas « Tintin a marché sur la Lune », c'est « On ».
C'est l'humanité.
16-17 ans avant Apollo, 16-17 ans avant Armstrong, on a marché sur la Lune. Et aujourd'hui, on découvre, avec un tweet récent d'Elon Musk, que pour les fusées du futur, eh bien, cette forme qu'on pouvait juger un peu ringarde, un peu à l'ancienne, de la fusée Tintin, cette fusée qui décolle et qui peut repartir, qui peut être réutilisable, eh bien, c'est celle dont rêve Elon Musk. Disant au passage, I do love Tintin, moi aussi j'aime Tintin. Et bah, c'est un bel hommage pour l'anniversaire. Je trouve que c'est le plus beau signe de modernité qu'on pouvait nous donner.
Et on aime tous Tintin sur RTL. Tiens, dans un court instant, Benoît Peters, on termine cette première partie en parlant de ce personnage. La Castafiore, de qui Hergé s'est-il inspiré? Et puis juste après, toute autre chose, on vous dit tout sur l'ADN et ce que son usage va changer dans nos vies. A tout de suite les curieux.
Suf, sur, cib.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Ah, voilà, Sildavie.
RTL.
État de la péninsule des Balkans. La Sildavie fut conquise au XIe siècle par la Bordurie, pays voisin.
La curiosité est un vilain défaut.
En fait, les 90 ans de Tintin sur RTL, Hergé l'a fait apparaître pour la première fois dans les colonnes du Petit 20e le 10 janvier 1929, même si quelques jours plus tôt, il y a une première planche qui annonce l'apparition de Tintin. C'est l'écrivain et auteur de bande dessinée Benoît Peters qui nous raconte. Et on termine en parlant de la Castafiore. S'est-il inspiré d'une grande cantatrice pour créer ce personnage?
Non, on croit parfois qu'il s'est inspiré de la Callas, mais pas du tout, parce qu'il a créé la Castafiore à la fin des années 30. Il y avait déjà des cantatrices. Il y avait dans la famille d'Hergé une dame qui aimait chanter de grands airs à la fin des repas et le jeune Hergé, le jeune Georges trouvait ça un peu pénible, un peu ridicule. Il y a un paradoxe sur la Castafiore, un truc incroyable, c'est qu'elle se produit sur les plus grandes scènes du monde. Oui. Elle a des succès extraordinaires, des disques par dizaines, et pourtant ni Milou, ni Haddock, ni Tintin ne supporte son chant, seul Tournesol est en adoration. Il est vrai qu'il est sourd.
Il est sourd quand même. On va parler de l'ADN dans un instant. Est-ce qu'on connaît la famille de Tintin?
Alors, ce qui est très étrange, c'est que Tintin, ce n'est ni un nom de famille, ni un prénom. Ouais. Tintin n'a pas d'enfance, il n'a pas de parents, ni de frères, de sœurs connus.
Il n'a pas, de
pas non plus,
plus
de vrai engagement sexuel. Pour un rien, ça pourrait être une jeune fille. Il est dans une forme d'idéalité. Il est, au fond, celui dont nous pouvons prendre la place pour vivre les aventures.
On se projette dans Tintin.
C'est un coup de génie, ça. Mmh. Parce que Haddock, c'est un vrai personnage auquel on peut croire, qui a un passé. Tintin, il existe purement et simplement, mais nous prenons sa place.
Merci, merci beaucoup Benoît Peters. Alors on conseille la lecture du feuilleton intégral, c'est le 8e tome, vous avez participé à toute cette collection magnifique qui raconte Hergé. Et puis aussi on a parlé de Tintin au Congo, publié chez le même éditeur, c'était édition Moulinsart et Casterman, Les Tribulations de Tintin au Congo, une monographie signée Philippe Godin.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, les curieux sont sur RTL.